passer un moment dans l'écriture et je vais vous inviter à tourner, ouvrir les pages de votre Bible. J'espère que vous en avez une avec vous. On va se retrouver dans Colossiens au chapitre 4 à partir du verset 2. Je vais lire le texte, je vais prier et puis on va réfléchir à ce qui est écrit ici dans Colossiens chapitre 4. Verset 2. Voilà, Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous tous. Notre Dieu, nous souvenons des paroles de Jésus dans Marc, en chapitre 4, qui nous appelle à entendre la parole, à l'écouter. Et maintenant, nous voulons te prier que tu nous ouvres les oreilles pour que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions être à l'écoute et que nous puissions répondre de manière appropriée pour la gloire de ton Fils. Amen. À quoi ça ressemble une vie impactée par la suprématie de Jésus-Christ ? Qu'est-ce qu'on peut lire sur les Google Agenda, ou peu importe le type d'agenda que vous utilisez, des personnes qui ont mis Jésus-Christ sur la plus haute marche du podium ? Dans l'Épître aux Colossiens, Paul cherche à persuader ses lecteurs de la suprématie de Jésus-Christ dans tous les domaines de la vie. C'est Jésus-Christ qui est la clé d'une vie spirituellement abondante. Il est la clé de notre épanouissement, d'une vie qui honore Dieu. Pour Paul, la vie abondante spirituellement n'est pas consacrée à quelques événements religieux. Ce n'est pas la participation à un rite quelconque, ce n'est pas non plus réservé à un lieu seulement. Plutôt, la vie spirituelle centrée sur Jésus, elle déborde dans toutes les sphères de notre quotidien. Une vie riche, spirituellement parlant, c'est une vie où on connaît personnellement Jésus-Christ et on fait pleinement sa volonté dans tous les domaines de la vie. Et si vous voyez rapidement chapitre 3 de Colossiens, juste sur la colonne d'avant, au verset 1, en fait, on voit que la spiritualité biblique, elle est finalement très terre-à-terre, elle est très concrète. On dit que, pour paraphraser, que le chrétien a la tête dans le ciel, mais les pieds sur la terre. Colossiens chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et cette suprématie de Jésus-Christ, cette conscience de la résurrection, de regarder vers le haut, d'avoir la tête dans le ciel, ça va avoir un impact dans les choses très concrètes de la vie, dans les domaines de la vie du chrétien, comme son comportement, verset 5, dans ses relations avec l'Église, chapitre 3, verset 9, dans sa famille, chapitre 18 et 19, dans son travail, verset 22 à 24. Des choses hyper concrètes. Qu'on fasse la vaisselle, qu'on aille boire un café avec un ami, qu'on étudie, qu'on aille faire du ski, le chrétien cherche à faire tout en parole et en acte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'en est-il de ses relations avec les gens de l'extérieur, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, puisque c'est ce dont il est question dans ces derniers versets de ce livre de Colossiens. Qu'en est-il de ses relations avec les gens de l'extérieur? Eh bien, la réponse à cette question, c'est cette dernière partie du livre de Colossiens qui nous l'explique. On le voit dans ce passage final que, pour répondre à notre question, il faut bien saisir d'abord qu'il y a un projet divin global et que nous avons une réponse à donner à ce projet divin global. La réponse à la question « Qu'en est-il des relations avec l'extérieur ?» Pour répondre, nous devons voir qu'il y a un projet divin global et notre réponse à ce projet divin global. Donc, premièrement, le projet divin global. Est-ce que je peux vous poser une question plutôt intime? Quelles sont vos ambitions en ce moment? Quelles sont vos ambitions en ce moment? Peut-être pour certains, c'est de réussir les examens de fin d'année. Là, je vois qu'il y a quelques étudiants. Peut-être c'est de voir vos petits-enfants. Ça, c'est votre ambition. Peut-être c'est de vous faire plus d'amis dans la ville de Lyon. Peut-être votre ambition, c'est tout simplement d'apprendre plus de choses sur Dieu. Avoir des ambitions, en fait, c'est tout à fait normal. On en a tous. Et c'est un peu comme si on disait qu'il faut regarder devant soi. C'est, si on ne regarde pas devant soi, ben, on fait comme mon fils qui a eu la bonne idée de courir les yeux fermés dans sa cour de récré. Ben, il s'est pris un arbre. Quelle est votre ambition? Est-ce que je peux maintenant vous poser une deuxième question? Savez-vous quelle est l'ambition de Dieu? Quelle est l'ambition de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut lire dans son agenda? Ben, dans ce texte, la réponse à cette question, quelle est l'ambition de Dieu, elle se trouve dans l'expression employée par Paul, faire connaître le mystère de Christ, au verset 3 de ce chapitre 4. Qu'est-ce que ce mystère de Christ? Ben, c'est un peu dans la Bible le nom de code du plan de Dieu, de son ambition pour l'humanité. Et ne vous laissez pas enquiquiner par le mot « mystère », parce que dans la Bible, le mot « mystère » a le sens d'un plan qui est maintenant révélé, dévoilé. Donc on n'est pas en train de parler d'une énigme comme dans un roman de Sherlock Holmes ou d'un mystère dans Harry Potter. Non, on est en train de parler du mystère de Christ, c'est-à-dire le plan que Dieu a maintenant révélé, dévoilé, manifesté au monde entier. Pour avoir une présentation succincte de ce plan, je vous propose de juste tourner quelques pages et d'aller voir Colossiens chapitre 1, le verset 13. Regardez ce chapitre 1, verset 13, pour voir quel est ce plan. Oui, il nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Ça, c'est le plan de Dieu. Bien sûr, Paul parle ici au passé pour décrire l'expérience, son expérience et celle des chrétiens de Colosse. Mais ce que Dieu a fait dans le passé pour eux, il le fait encore pour des hommes et des femmes aujourd'hui, puisqu'il s'agit du plan qu'il a en fait pour toute l'humanité. Un transfert du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Un transfert du royaume dans lequel les hommes sont rebelles à Dieu, centrés sur eux-mêmes, méprisant Dieu et son règne. Transférés de ce royaume au royaume de son Fils, dans lequel ils sont pardonnés, rachetés, purifiés, transformés. Voilà ce que fait Dieu tous les jours. Ça, c'est son plan. Donc si ce matin vous vous demandez, mais qu'est-ce que Dieu fait dans le monde actuellement ? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la réponse ici. Voici ce que Dieu fait dans le monde. Il transfère des hommes, des femmes, du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est le plan de Dieu, le projet divin global, son ambition. Donc vous voulez jeter un coup d'œil sur le planning de Dieu cet après-midi, lorsque vous serez en train de regarder le match Lyon 3. Oh ben, il transfère des gens du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Vous voulez savoir ce qu'il y a sur son agenda demain, lundi à 8h, quand vous vous rendrez sur le bureau ? Ben, Dieu transfère des gens du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Voilà ce que Dieu fait actuellement dans le monde. Du coup, si nous sommes chrétiens, ça va influencer la manière dont on voit notre vie. Regardez, s'il vous plaît, au chapitre 4, où est Paul actuellement quand il écrit ces lignes ? Où est-il ? En prison, merci. Verset 2, à cause duquel je suis emprisonné. Plus loin, verset 18, souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Et du coup, Paul envoie son mail de soutien à cette église et il demande à Dieu d'ouvrir une porte. Mais quelle porte demande-t-il que Dieu ouvre ? Celle de sa prison ? Non. Il lui demande une opportunité de pouvoir dire et expliquer le mystère de Christ, son plan, sa bonne nouvelle du salut, là où il est actuellement en prison. Voyez comment l'ambition de Dieu change, influence les priorités de Paul. Plutôt que de supplier Dieu d'ouvrir une porte pour qu'il puisse sortir, il prie Dieu pour que dans la situation difficile dans laquelle il se trouve, Dieu lui donne les opportunités de parler de son plan, du mystère, du salut en Jésus-Christ. Et nous ? Qu'est-ce que nous prions quand nous demandons à Dieu d'ouvrir une porte ? Soyons honnêtes, 30 secondes. Si on regarde aux prières, aux formules, concrètement, quand on prie Dieu d'ouvrir une porte, qu'est-ce qu'on lui demande objectivement ? Quels sont les sujets qui nous préoccupent le plus ? Je ne veux pas répondre pour vous, je vous laisse réfléchir. Mais je vais vous dire quelques prières que j'entends parmi les étudiants. Ils ne m'ont pas donné le droit de le dire, mais ils resteront anonymes. Seigneur, tu vois comment je galère pour trouver ma voie. S'il te plaît, ouvre une porte pour que tu puisses me dire où je dois travailler. Oh mon Dieu, tu vois, j'hésite entre Magali et Catherine. S'il te plaît, ouvre une porte pour que je puisse savoir avec laquelle je dois me marier. Soyons réalistes. Je crois que beaucoup de fois, nos préoccupations reflètent non pas l'ambition de Dieu, et je m'inclus dans cette application, mais ça reflète en fait nos ambitions personnelles. finalement, on est quand même assez centré sur nous-mêmes, même en tant que chrétiens. Même en tant que chrétiens, même ceux qui ont décidé de vivre la tête dans le ciel et les pieds sur la terre, des fois, bah, on vit quand même si, comme si on regardait en bas sur la terre, sur nous-mêmes. On passe beaucoup de temps à regarder nos priorités. C'est pourquoi Paul veut assainir tout ça, en nous montrant quelle devrait être la réponse au projet divin global. Donc, deuxièmement, notre réponse au projet divin global. Et cette réponse, elle se décline en trois P. Trois sous-sections sous ce deuxième point. La prière, la proclamation et un partenariat. Prière, proclamation, partenariat. Alors, juste une petite remarque. Vous savez qu'il y a des titres qui sont donnés au début de certaines sections de votre Bible. Il y en a une précisément juste avant, dans ma Bible ici, second matin, juste avant la section que nous venons de lire, où je lis « Dernières instructions ». Alors, ces titres ne font pas partie du texte original. On n'est d'ailleurs pas obligé de les lire quand on lit la Bible. Et des fois, ils sont très utiles pour nous aider à comprendre le sens d'une section, mais des fois, ils sont un peu évasifs et on a un peu du mal à voir finalement qu'est-ce que voulait faire l'auteur. Et là, je crois que les éditeurs, en marquant diverses instructions, sont un peu en train de nous faire un aveu d'ignorance. Ils ont un peu perdu le fil rouge de la pensée de Paul. Ils ont imaginé Paul un soir devant son frigo. Il y a des post-it et puis il se dit, qu'est-ce que je pourrais leur dire pour finir ma lettre? La prière, oui, ça c'est bien la prière. Il ne prie pas souvent, hein, donc je vais parler de la prière à la fin, c'est bien. Et puis partenariat, oui, partenariat, ça c'est important. J'ai toujours pensé aux gens pour lesquels prier. Et puis là, il y a le lait. Ah non, ça c'est autre chose, hein, rien à voir. Le fil rouge de la pensée de l'auteur. Quelle est l'intention de l'auteur en nous rapportant ces derniers versets? En fait, le verset sur la prière est lié à ce qui précède et nous permet d'avancer dans ce qui va suivre. C'est un peu un pivot dans ce chapitre 4. La vraie spiritualité biblique, elle impacte mon comportement, mes relations dans l'Église, ma famille, mon travail et mes relations avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Et donc, je dois prier pour ça. Je suis invité à prier, à demander à Dieu de l'aide pour que nous devons apprendre à vivre la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Prière. Donc, pourquoi prier? Pourquoi parler à Dieu en réponse au projet divin global? Juste si on regarde par rapport à ce qu'il nous demande, par rapport à comment transférer des gens de son royaume, des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé, je crois que ça devrait nous mettre à genoux, en fait, pour prier. Parce que je suis désolé, mais les formations en France sont très bien, mais il n'y a pas de diplôme pour ça, pour transférer une personne du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Ça, c'est tout simplement impossible pour un être humain. Il n'y a pas de prix Nobel, à ma connaissance, qui est capable de faire ça. C'est impossible. Prier, on prie parce que transférer des gens du royaume des ténèbres au royaume de son Fils, c'est comme demander à un poisson rouge de sortir de son bocal pour aller chercher soi-même sa nourriture et replonger après dans son eau. Et ça, c'est impossible. Pour le salut, pour une annonce du mystère de Christ, pour des opportunités de l'expliquer, on a besoin de l'aide de Dieu, d'être à genoux pour prier et lui demander de faire ce à quoi il s'est engagé. Et nous sommes encouragés dans cette section finale de l'Épître aux Colossiens à justement persévérer, parce que ça va nous demander un effort, que ce soit pour notre famille, que ce soit pour nos collègues au travail, pour notre comportement, pour notre Église. Prions avec persévérance. Et je ne sais pas quelles sont vos stratégies pour faire cela. Et je ne veux pas donner l'impression de donner des leçons, mais personnellement, j'ai besoin de planifier, de prier. Mettre en place un rappel sur mon téléphone, de prévoir un moment dans la semaine pour avoir un temps de prière conséquent pour ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que, et vous connaissez peut-être cette affirmation, si je ne planifie pas, je planifie l'échec. Donc j'ai besoin de planifier des temps de prière parce que je réponds comme ça au projet divin global, si ces choses-là nous captivent, si nous vivons la tête dans le ciel, mais les pieds sur la terre, nous allons prier. Première réponse au projet divin global, la prière. Deuxième réponse, la proclamation. En Colossiens chapitre 2, verset 6, ne le prenez pas, mais Paul s'est fixé l'objectif de nous expliquer comment vivre la vie chrétienne authentique, où il a dit « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Et marcher en lui ici, ça signifie se conduire, se comporter, avoir la bonne attitude. Alors regardez maintenant verset 5 de ce chapitre 4. Conduisez-vous avec sagesse, ou plus littéralement ici dans le texte, il est écrit « Marchez avec sagesse ». Vous voyez le lien entre l'intention de l'auteur de nous apprendre à marcher d'une manière qui honore Christ, avec ici, on a appris à marcher, à vivre, à nous, avoir une conduite digne qui honore le Christ avec Jésus. On avait vu comment c'était de vivre avec sa famille, dans son travail, dans les relations que nous expérimentons à l'Église. Et maintenant, il veut le faire en ce qui concerne les gens de l'extérieur. Du coup, quelle doit être cette attitude, comment cette marche, cette vie avec les gens qui ne connaissent pas Jésus ? Eh bien, nous sommes invités à nous conduire avec sagesse envers les gens de l'extérieur et racheter le temps. Soyez sages dans votre marche et profitez de chaque occasion. Et que veut-il dire par là ? Ben, c'est le verset suivant, en fait, qui nous explique le fond de sa pensée. Comment être sage et profiter du temps ? Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Est-ce que vous avez vu comment le projet divin global, l'avancement de l'évangile s'insère dans notre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'ambition de Dieu devient aussi notre ambition. Et donc, parler de lui, le faire connaître, témoigner d'une manière intelligente, pertinente et audacieuse, devient aussi notre priorité. On a vu qu'en chapitre 4, verset 3, Paul demande la prière pour qu'une porte s'ouvre pour la parole. Et maintenant, nous sommes encouragés nous-mêmes à faire de même en utilisant notre bouche pour avoir une parole pleine de grâce, mais aussi épicée, assaisonnée, c'est-à-dire qu'elle va titiller l'oreille de notre auditeur. Et dans mon langage, à moi, on appelle ça mettre un caillou dans la chaussure de quelqu'un. C'est-à-dire que quand on a l'opportunité de répondre au sujet de notre foi, ben moi personnellement j'essaie de saisir cette opportunité en essayant de mettre un caillou dans la chaussure de mon interlocuteur. Rassurez-vous, c'est une image, c'est une illustration. Il s'agit d'une métaphore. Mettre le caillou dans la chaussure de quelqu'un, c'est essayer de fournir cette réponse tellement pertinente, appropriée, épicée, que ça va déranger notre ami. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des randonnées, si vous avez déjà eu l'expérience désagréable d'avoir un petit caillou dans votre chaussure. Mais au début, c'est très rigolo. On joue avec le caillou, on essaie de le caser dans un coin de la chaussure. On refuse de l'enlever, pas de souci, ça va me déranger. Puis on avance kilomètre après kilomètre, et puis ça frotte, ça commence à brûler. Et puis au bout d'un moment, ça provoque une blessure, ça fait un trou même, ça commence à saigner et tout. Et c'est désagréable au point de dire « Ah, il faut que j'enlève ce caillou !» Et donc on enlève le caillou. Et ben cette parole assaisonnée, pleine de grâce et assaisonnée de sel, c'est un peu ça en fait. C'est provoquer notre auditeur pour qu'il commence à réfléchir en fait, lui fournir une occasion de réfléchir à une question au point de se dire « Ah, mais j'avais jamais vu les choses comme ça, je vais y réfléchir et je vais voir avec quelle réponse je peux obtenir. » Donc par exemple, il m'est arrivé une fois de m'asseoir avec un étudiant en médecine. Et donc on a une bonne discussion sur son futur de médecin. Et je me suis interrogé à son parcours. Je vous fais un résumé en fait de la discussion. Hein. Je lui ai posé des questions sur lui, pourquoi il en est arrivé à être médecin, c'est réfléchir à cette vocation. Et puis au fil de la discussion, j'en suis arrivé à lui demander, mais finalement, comment tu vas donner de l'espoir à tes patients qui sont en phase terminale de cancer, par exemple? Et l'étudiant en médecine me dit, Ben ça, je ne sais pas. Caillou dans la chaussure. Donc, selon Paul, nous devrions utiliser chaque occasion, chaque opportunité dans la prière pour présenter une réponse adéquate, pleine de grâce et assaisonnée de sel, pour faire réfléchir les personnes que Dieu a placées sur notre route pour qu'ils puissent continuer à cheminer vers Jésus-Christ dans leur réflexion. De les titiller au point qu'à un moment, ils veulent en savoir plus sur Jésus. Comment pouvons-nous répondre au projet divin global ? Prière, proclamation et très brièvement, partenariat, parce que je vois que le temps est fini. Je vous pose la question, et c'est la dernière, promis. Pourquoi il y a cette liste de prénoms à la fin de cette épître ? Je vous l'avoue, j'ai parfois l'impression qu'à part donner des idées de noms de bébés aux chrétiens, ces listes restent un peu anecdotiques. Mais en étudiant de plus près les informations qui sont associées aux personnes citées dans cette fin de lettre, je me suis aperçu que Paul est en train de nous montrer des modèles de personnes qui ont répondu au projet divin global. Donc ce que nous montre cette fin de partie de l'Épître aux Colossiens, ce n'est pas juste des listes de noms pour votre future progéniture, mais c'est en fait un réseau de personnes partenaires qui, en équipe, ont décidé de répondre à l'appel du projet divin. Et ce qu'on voit, c'est leur engagement. On a des gens qui ouvrent leur maison pour que ce soit une église. Il y en a qui se donnent dans la prière. Et il y en a qui sont même en détention avec Paul, qui ont accepté la honte de s'associer avec lui dans l'annonce de l'évangile. Un service fidèle qui coûte. Et regardez aussi la diversité de ces personnes. Il y a dans ce groupe des Grecs, comme Aristarque, des Turcs, comme Tichique, des Juifs, des personnes d'origine juive, pardon, comme Marc et Justus. Il y a des femmes, comme Nympha. Et certains sont de Colosse, de Laodicée, de Hierapolis. En gros, toutes les églises qui sont situées dans un rayon de 12 kilomètres, donc à peu près ce qui devrait correspondre peut-être à la métropole lyonnaise. Donc une unité dans la diversité des partenaires qui œuvrent ensemble pour l'avancement de l'évangile. Et je termine avec ça. À Grenoble, je le dis régulièrement aux étudiants, ce qui fait son succès au foyer évangélique universitaire, pourquoi il y a des gens qui se posent des questions sur Jésus avec ce ministère, c'est pas parce qu'on a une belle page Facebook. Ce qui fait le succès du feu, c'est pas non plus sa cuisine, aussi excellente soit-elle. Ce qui fait le succès du feu, ce n'est pas non plus la qualité des événements, même si on essaye de se donner au maximum pour accueillir et honorer nos invités. Mais ce qui fait le succès du feu, ce sont ces étudiants qui ont accepté de se donner pour ce projet divin global, de servir fidèlement, de vivre une unité malgré la diversité. Et je leur dis régulièrement, si le feu est un lieu accueillant et s'il y a des gens qui aujourd'hui rencontrent Jésus-Christ, c'est parce que nous répondons ensemble au projet divin global de Dieu. C'est grâce à vous, étudiants chrétiens, qui ont répondu à cette ambition divine. Le projet global de Dieu, c'est de transférer des gens du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Est-ce que nous le croyons, que c'est ça que Dieu fait actuellement dans le monde ? Si oui, prions, proclamons et développons des partenariats dans l'Évangile. Je m'arrête ici.